Ce que vient de dire Marie-Pierre est tout à fait important parce que certains des naïfs, il y en a dans la salle, auraient pu penser que la construction d'objets était une opération mystérieuse, complexe, et même les perplexités de Julien pouvaient aller un peu dans ce sens-là. Et là, effectivement, l'intérêt, enfin, de ce que tu as dit, ça a été de montrer à quel point ce sont des opérations concrètes. Alors, la genèse, c'est le quatrième point. Je pense que on a beau essayer d'éviter d'être des historiens, on est toujours, pratiquement toujours renvoyé vers l'histoire. Hein. Enfin, genèse de la catégorie, genèse d'une institution, pour effectivement voir les possibles écartés, etc. Dénaturaliser au fond l'objet. Donc l'histoire est un instrument de dénaturalisation. L'autre chose, l'autre point, c'est la question des unités d'analyse. Alors, au fond, les questions sont très simples, c'est-à-dire qui on va mettre ensemble, qu'est-ce qu'on va mettre ensemble, qu'est-ce qu'on va séparer, etc. Et on a l'impression que le travail scientifique, au fond, participe d'un travail de classement ou de reclassement, plus exactement, puisqu'on va essayer de disqualifier des classements spontanés pour substituer des classements que on peut appeler construits. Voilà, et cette question d'unité d'analyse, c'est pas une question méthodologique, comment vous allez compter, etc. C'est une question de fond, enfin, qui porte sur la manière dont on conçoit notre travail, quoi. Alors. Non, c'est pas véritablement des questions, c'est une manière de souligner au stabilo ce qui vient d'être dit, en tout cas pour mon propre profit. Voilà.
Alors moi j'aurais bien une question à adresser à la fois à Charles Suau et à Julien Duval. Parce que Charles a parlé de la notion de champ et a terminé sur le formalisme de la notion, je crois. Et puis Julien... dont je suis en partie plus proche par la génération, en tout cas par l'apprentissage, nous a parlé de l'analyse des correspondances et de la difficulté d'en faire un instrument qui soit lié à la construction d'objets par rapport à l'utilisation positiviste, la conception positiviste de la statistique. Donc je me dis, il y aura un débat à avoir là-dessus, peut-être sur des différences de génération aussi, ou sur le fait que les outils à disposition ne sont pas les mêmes aux différentes générations. Que l'on peut voir la notion de champ comme une notion abstraite, un ensemble de schèmes et qui peuvent être répétitifs, etc., mais qu'on peut aussi lier à des opérations assez concrètes, mais très difficiles, de constituer un corpus de, je sais pas, de réalisateurs et puis de variables à documenter, etc., sans se perdre dans la statistique des variables à la Lazarsfeld, quoi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je veux vous faire discuter de ça.
L'idée que le champ, finalement, se construit à l'épreuve de quelques enquêtes, quand même. J'ose pas dire concrètes, parce que je sais plus trop ce que ça veut dire concret. Mais je prends un exemple qui pour moi est constitutif de la notion de champ telle que Bourdieu la redéfinit dans Genèse et Structure, c'est la notion de transaction, c'est-à-dire comment est-ce qu'il fonctionne. Est-ce que les prêtres ou les pasteurs se comportent en passant des transactions directes avec leurs laïcs, avec les différents groupes de laïcs, ou alors est-ce que leur comportement s'explique plus par des effets de position interne au champ? Bon, ça c'est une question, à mon avis, c'est sur un critère comme celui-ci qu'il a fait basculer la notion de champ d'une lecture très interactionniste à une lecture peut-être plus structurale, etc. Et alors, ça c'était l'opération de construction. Vient de sortir un livre justement sur la crise du christianisme pendant Vatican II, fait par un historien, où manifestement Bon, c'est un livre que je trouve très faible, qui fait une preuve, alors il n'y a pas du tout de notion de champ, etc., qui fait une preuve uniquement par la concordance des temps en disant les pratiques décroissent pendant Vatican II, donc c'est Vatican II, etc. Donc ce sont les prêtres qui, pour caresser leur laïque dans le sens du poil, ont arrêté de, bon, en termes de transactions. Or, justement, là, j'ai pas le temps de montrer, mais on pourrait démontrer de manière empirique que la notion de transaction ici ne marche pas du tout, que c'était vraiment des concurrences entre prêtres, entre générations de prêtres, entre des plus vieux, etc., et qu'il y a des prêtres qui se sont débarrassés à ce moment-là, non pas de leur laïc, mais se sont débarrassés de leurs concurrents prêtres qu'ils ne pouvaient plus supporter. Autrement dit, le tout, c'est de trouver des opérateurs empiriques qui font marcher ou pas la notion de champ. Sinon, c'est des guerres à non plus finir. Mais alors, le tout, c'est de trouver, d'arriver à dépister les points de discussion réels, observables, contrôlables empiriquement. Et là, pour résumer, cette notion de comment est-ce que le champ fonctionne en transaction ou en concurrence, etc., pour moi, c'est un critère objectif, et la notion de champ me sert à comprendre comment travaillent des spécialistes, est-ce qu'ils passent leur temps à vraiment écouter les fidèles et je leur donne ce qu'ils attendent, ou est-ce que je suis pris dans un jeu et en étant pris dans ce jeu, en même temps, je réponds plus ou moins à ces fidèles. Mais je suis sensible à l'idée de, je pense à toute autre chose, à l'idée de Julien, que réponse est un peu la version deuxième génération du métier de sociologue. Moi, l'idée me plaît bien, finalement. Bon, parce que là, du coup, il y a des exemples. Il y a des allusions à des enquêtes concrètes. Et finalement, tu me donnes une idée. Version. Finalement, le deuxième tome attendu du métier de sociologue, c'est peut-être réponse.
Oui. Mais je suis d'accord. Non, je pense que il faut pas oublier que en 1968, au moment où paraît le métier de sociologue, c'était des jeunes sociologues et c'était l'époque où il y avait Althusser, les structuralistes, l'épistémologie, c'était un mot dont on se gargarisait. Donc ils étaient probablement un peu censurés par tous ces gens-là, et ils ont voulu faire un livre. Alors le comble, c'est après, ça a été dans la reproduction, la première partie de la reproduction, qui voulait vraiment montrer que la sociologie qu'ils pratiquaient était en état de se confronter aux théoriciens distingués qui les surveillaient. Mais moi je suis assez d'accord avec cette idée. En même temps, je pense que le métier de sociologue est un ouvrage fondamental. Parce que c'est un livre où ils se censurent aussi pour se montrer de bon niveau épistémologique, et au fond c'est pas l'épistémologie qui intéressait tellement Bourdieu. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de dire ce matin. C'était vraiment le métier de sociologue. Enfin, littéralement, comment travailler, quoi. Alors.
On peut poser une question à Louis. Charles,
est-ce qu'on peut te poser une question ?
Charles, j'ai une question à te poser. Comment tu fais pour montrer que c'est plus un effet de concurrence à l'intérieur du champ religieux qu'un effet de transaction avec les laïcs ? Parce que tu avais l'air de considérer que c'était très facile. Donc, tu peux nous expliquer comment tu fais ?
Je pense à un livre. C'est pas coton, parce que en fait. Si on regarde bien comment fonctionne le champ, c'est par ce jeu de concurrence que, en même temps, les agents répondent aux besoins externes, théoriquement. Mais là, l'exemple que j'ai sous les yeux, c'est que l'hypothèse de la transaction directe, dans le cas très concret de Vatican II, etc., tout simplement, ça ne marche pas comme ça. Parce que si les prêtres avaient été... Bon, la thèse du bouquin, c'est les prêtres, à la suite de Vatican II, ont un peu cassé la baraque... Hein, en arrêtant d'imposer, de rendre obligatoire la pratique rituelle, et qu'ils auraient été suivis par les laïcs, d'après lui, hein, à tel point qu'en 3-4 ans, les taux boulards, si tu veux, s'effondrent, etc. C'est-à-dire les prêtres, autrement dit, les prêtres auraient passé de bonnes transactions, en quelque sorte. Mais bon. Mais moi, je me dis que si les prêtres avaient été obéis à ce point-là, c'est-à-dire s'ils avaient pressenti avec des transactions dûment pensées, s'ils avaient bien pensé, autrement dit, les attentes des laïcs, ils y auraient répondu efficacement. Ils auraient ajusté les croyances traditionnelles dans les croyances, ils auraient fait du Lenoir, non pas Rémy, mais Frédéric aujourd'hui, quoi, qui est le premier curé de France maintenant. Hein. C'est-à-dire que là du coup, mais Lenoir est devenu pour moi un premier curé de France parce que il a contribué, il a profité de l'évanescence des frontières claires et nettes qu'il y avait dans le champ religieux il y a 30 ans. Hein. Autrement dit, c'est un problème de déstructuration interne au champ religieux qui crée justement des concurrences qui n'existaient pas jusque-là. Hein. Et entre Lenoir, son bouquin sur Spinoza, sur l'analyse intérieure, etc. Pour moi, alors c'est peut-être secondairement qu'il répond à des demandes journalistiques, etc. C'est possible, mais je pense que d'abord il occupe un terrain qui a été délaissé par les agents religieux traditionnels. Bon, donc c'est pas ou l'un ou l'autre. C'est pas ou des transactions ou des concurrences internes. C'est heureusement plus compliqué que ça. Mais je pense que l'idée de Bourdieu, c'était de partir, de privilégier la concurrence interne pour expliquer les stratégies plutôt que de partir, de privilégier cette relation directe, agent religieux, groupe de laïcs que je bon. Mais, bon, je vais pas en faire une nouvelle religion. Hein.
Oui. Alors, je pense que effectivement, Bourdieu a des affirmations qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire l'importance des relations de concurrence entre les. Mais ce qui complique un peu les choses aussi, c'est qu'il a d'autres formulations. Et je crois que ça se trouve dans Anthropologie économique, où ils disent, où il dit les agents du champ économique ou religieux, des agents du champ, ne se surveillent pas en permanence les uns les autres. Il n'y a pas ils ne réintroduisent pas le calcul. Au fond, ils fonctionnent aussi à l'habitus, c'est-à-dire ils font ce pourquoi ils sont bons. Et ensuite, par là même, leur place dans la niche, et il emploie le terme de niche, se trouve déterminée. Donc, ça, je pense que ça complique aussi les analyses. C'est-à-dire, par rapport à ce que tu dis, il y a encore une autre subtilité qu'on peut introduire, c'est-à-dire les gens ne sont pas toujours en train de se, comme dans un terrain de foot, de se marquer et démarquer les uns des autres, mais ils agissent aussi d'une manière naïve, non réflexive, à l'habitus, quoi. Ça. Alors là,
le fin du fin, c'est dans l'économie. Et merci Julien de m'avoir envoyé le dernier. Bourdieu explique qu'il a lu la définition du marché chez Weber. Qui dit-il, lequel Weber n'avait pas conscience de la notion de champ? Mais Bourdieu a lu Weber, a lu la définition du marché comme étant une définition du champ. En ce sens où Weber dit les producteurs de biens ne passent pas leur temps à chercher à répondre immédiatement à une demande extérieure. Ils sont d'abord pris par une concurrence entre eux pour l'accès au marché. Hein ? Autrement dit, Bourdieu lit avec la notion de champ une définition que Weber donne en termes de champ sans penser la notion de champ. Et lequel Bourdieu dit, j'avais lu dans les années 60 cette même définition, j'avais rien compris. Et il m'a fallu 20 ans pour comprendre que Weber, finalement, pensait en termes de champ sans avoir le concept.
Oui, je suis désolée. Bah, je vais poser. Enfin, moi, je fais partie des naïfs. Je suis désolée si je vais vous poser une question idiote, mais je vous ai entendu il y a 2 semaines où vous disiez que j'avais le sentiment que vous exprimiez un certain rapport, une forme d'orthodoxie bourdieusienne, par exemple, qui voudrait que quand on décrit, par exemple, un espace, on décrit une somme de pôles. Et vous disiez, ben, des fois, il faut revenir à une vulgate peut-être un peu marxiste, avec des champs qui fonctionnent selon une bipolarité. Par exemple, vous parliez des champs de production dans le cadre du cinéma, etc. Et je me dis, est-ce que des fois... Enfin, moi, c'est vraiment une question, parce que en tant que, on va dire, nouvelle entrante, est-ce que des fois, ce qui pèse le plus quand on essaye de faire la sociologie bourdieusienne, c'est pas cette espèce de poids dans le raffinement lié à la pratique du métier, dans le raffinement lié à l'usage des concepts, qui impose des fois des formes d'hypercorrection dans le rapport à la sociologie bourdieusienne, à ses usages, qui est peut-être le premier obstacle à faire de la sociologie. Enfin, je suis désolée, c'est pas très compréhensible ce que je viens de dire, mais... Voilà, c'est comment on fait de la sociologie quand on a un rapport très orthodoxe, très hyper corrigé parfois, ce que c'est que le métier de sociologue version Bourdieu et Bachelard, quoi.
Ouais.
Tu réponds sur la CN aussi. Tu choisis l'ordre.
Non, je peux répondre déjà, mais je vais pas répondre en fait, c'est ça qui est terrible. Non, juste sur la CM. Alors, c'est peut-être que c'est. En fait, moi, c'est un peu par accident aussi. Si je réfléchis, enfin, j'ai pas ça. Il y a quelque chose qui est pas par accident. Enfin, qui n'est pas par. Alors, qui est pas par accident. Je pense, c'est moi. Je crois que c'est important. Bourdieu dit que c'est. Une phrase que j'aime bien, mais il le dit incidemment. Bon, on pourrait mettre aussi des citations, il dit des choses différentes, mais sur ce point. Mais il dit l'une des tâches fondamentales de la science sociale, c'est de construire des espaces sociaux. Et moi, je crois ça, en tout cas, que c'est il y a un certain nombre de travaux aujourd'hui qui font comme si voilà, on a des gens, on n'a pas de propriété, pas de position, on parle de... Enfin, ça existe encore beaucoup, beaucoup, quoi. Et voilà, alors moi, je pense après qu'on... Voilà, on peut pas qu'on construit pas un champ comme ça, ex nihilo, à partir de rien, mais je pense que c'est... que c'est important de le faire. Et par exemple, ce que j'avais fait sur le cinéma, c'était... Oui, presque dans cet esprit. Donc, je ne sais pas si c'est ça que vous faisiez référence pour l'orthodoxie. Ou... moi, c'est vrai que je me suis dit, je vais faire cette. Tout le monde, tous les gens qui n'aiment pas Bourdieu diront que c'est que je fais de la répétition, que ça n'apporte rien, etc. Moi, je pense que ça apporte. C'est un truc, quelque chose de fondamental. Enfin, d'essayer de construire ces espaces sociaux. Avant, je pense, c'est de faire, à mon avis, ce qui est du faux raffinement, ou voilà. Mais voilà, il y a ça, et s'il y a quelque chose d'intentionnel, enfin, c'est peut-être aussi, moi, je pense que c'est vrai que j'ai l'impression que la sociologie de Bourdieu est à la fois en position de très grande force. Bon, il était question ce matin de la double page dans Le Monde. Moi, je l'avais trouvé peut-être un peu excessivement positive, je pense, que y compris de dire que CNRS ont... Maintenant, on peut faire des projets avec champ. Quand on voit ce qui s'est passé l'année dernière, on se dit que peut-être que non, quoi. Voilà. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que la sociologie de Bourdieu soit spécialement, soit entièrement en position de force. Et je trouve qu'il faut, je pense que la CM, c'est encore une fois, je pense pas du tout. Il faut surtout pas faire que ça. Mais qu'il faut aussi aller sur le terrain. Où se joue principalement, où beaucoup de gens placent l'essentiel de la scientificité. Et après, sur la dimension générationnelle, c'est quelque chose de très élémentaire, mais c'est certainement pas ça que tu voulais dire. Mais je pense que les simples questions les outils, les rapports, les logiciels, etc., changent tout. Enfin, c'est évident que les dernières générations, les générations entrantes aujourd'hui, ont un rapport à la statistique qui a rien à voir avec celui que nous on avait. Et je pense que ça n'est rien que pour des raisons techniques. Enfin, voilà. Mais c'est très en deçà. C'est pas du tout.
Absolument toute la place. Bah, moi, j'ai réfléchi sur des questions au champ, le rapport entre les clercs et les laïcs, par exemple. Et à chaque fois, j'entends des discussions que moi, j'ai le sentiment de trouver très scolastique sur c'est quoi le degré d'autonomie du champ, etc. Mais en fait, derrière, c'est des agences, c'est des pratiques, et c'est des institutions et des interactions très concrètes. Et du coup, je me demande dans quelle mesure la position, mais peut-être que moi j'interprète mal, mais j'ai l'impression que Bourdieu, c'est quand même relativement, au moins spirituellement, très dominant dans l'univers académique. Et ça impose des usages très hyper corrigés, des concepts, des discussions un peu, des fois, je trouve, vides. On voit plus les agents, des fois, j'ai le sentiment, quand on discute typiquement du concept de champ. Mais peut-être que je dis n'importe quoi, hein, je sais pas.
Non, enfin, sans doute pas. que le champ fait disparaître les agents, enfin, que c'est, ça serait... Mais oui, c'est vrai.
C'est quoi les frontières? Oui, c'est une question que pose régulièrement dans les cours de sociologie de Charles Bourdieu, on le voit. C'est la question qu'il pose aussi dès le départ dans Camus, par exemple, aussi sur les fondements des légitimes. Mais dans quelle mesure on va disserter des gens, quoi?
Ben, oui, moi j'ai pas l'impression qu'on disserte. Moi je le fais, donc mais c'est pas un problème. Mais par contre, enfin sur ce que vous dites, moi j'ai pas le sentiment que la notion de champ, par exemple, elle soit énormément utilisée dans la sociologie aujourd'hui. Enfin, dans la production, moi je me trompe peut-être, mais par exemple j'ai le sentiment que c'est une notion aujourd'hui qui est plus utilisée à l'étranger. Alors quand on dit à l'étranger, ça veut dire en langue anglaise, enfin dans mon cas en tout cas, parce que mais oui, qu'en France, il n'y a pas énormément d'utilisateurs de la notion de champ. Donc voilà, enfin je le dis ça. Moi, c'est vrai que je fais la question de frontières, de degré d'autonomie. Bon, je les ai posées dans certains cas. Donc voilà, peut-être que c'est répétitif, abstrait, éloigné des agents, etc. Mais voilà, enfin, j'ai pas l'impression qu'on soit très très nombreux à poser ces questions-là aujourd'hui. Voilà. Voilà. Après, moi, je pense, enfin, c'est pas, mais c'est mon point de vue. Enfin, par exemple, la question de l'autonomie. Bon, moi, j'ai essayé de la poser dans le cas du cinéma. Je pense que c'est pas que de la répétition de ce qui. Je pense qu'un intérêt de varier les questions ne se pose pas précisément. Le degré d'autonomie n'est pas le même dans les différents domaines. Et que c'est donc pas, c'est pas parce que Bourdieu l'a posé en 84 au sujet du champ universitaire qu'il ne faut pas le poser sur un autre univers aujourd'hui. Mais... Après, l'orthodoxie, je réagis juste sur le mot. Moi, c'est quelque chose qui me gêne toujours un peu, cette... je suis pas, moi j'ai pas... parce que ça place sur le terrain religieux, en fait, quelque chose qui est... enfin, c'est pas une question. Alors, peut-être, il y a sans doute des. On parlait de la notion de croyance ce matin. Il y a peut-être toujours de la. Évidemment, enfin, même dans la vie la plus scientifique, il y a sûrement de la croyance, etc. Mais moi, ça m'embête toujours ce vocabulaire qu'on applique particulièrement à Bourdieu, de l'ordre de la religion, de dire. Moi, j'ai. Et vraiment, à titre. Enfin, moi, j'ai le sentiment de ne pas avoir vécu. Je suis venu à Bourdieu par les livres de Bourdieu. C'est pas une rencontre. Enfin, on ne m'a pas du tout forcé. Enfin, si je retraçais mon itinéraire, on ne m'a vraiment pas forcé à aller au Centre de sociologie européenne. Et c'est vraiment pas le cas. Voilà, moi, je l'ai vécu. Je me souviens, c'était Accardo qui avait dit une phrase du type ça ne se pose pas en termes. C'est simplement. Enfin oui, c'est par rapport à moi, ça m'a semblé ce qui se faisait de plus puissant en sociologie à l'époque. Je le pense encore, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il n'y a pas de projet sociologique concurrent. Et voilà, moi je ne me place pas sur le terrain de l'orthodoxie, vraiment. Enfin, c'est pas que les gens, après, voilà, bon, les gens peuvent penser que moi ou d'autres le faisons, mais je ne me revendique pas de ça. Par contre, essayer de faire les choses de la façon la plus rigoureuse possible. Et moi, effectivement, ça me paraît passer par mon Dieu.
Il y a plus
de questions.
Par contre, tu me dis de sociologue.
Parce que comme tout à l'heure, on a parlé de la censure, sans doute, qui pesait sur Bourdieu-Passeron. Dans ma mémoire, j'ai les éditions 68 et 78 du métier de sociologue. Donc, dans la version 68, il y a un texte d'Althusser et un texte de Lazarsfeld. Dans la version 73, les deux ont disparu. Donc, pour parler de, assez concrètement de ce qu'on a discuté tout à l'heure sur les censures, les effets de champ, les jeunes qui arrivent dans le domaine et qui veulent le bouleverser. En 68, il donne encore des gages à deux dominants, on pourrait dire, enfin importants, Althusser d'un côté et puis Lazarsfeld de l'autre. Et en 73, bon, ça y est, déjà, ils ont publié, je ne sais pas combien de bouquins, enfin Bourdieu a déjà. Donc ils font un peu le ménage et les deux disparaissent. Donc c'est intéressant, pour continuer à réfléchir à, tiens, nos les censures qui pèsent sur les meilleurs constructeurs d'objets de l'époque et d'aujourd'hui encore. Voilà.
Oui, juste un petit mot, mais c'est histoire de faire avancer le schmilblick. L'expression sociologie de Bourdieu, il faudrait la construire comme objet, parce que, d'un certain point de vue, elle n'a aucun sens. C'est une expression extrêmement piégeante, et donc il faudrait comprendre les raisons pour lesquelles on y a recours à certains moments, parce qu'effectivement, il y a des ennemis, et en fait, en quoi, en répondant à des ennemis, entre guillemets, ou à des concurrents, on s'enferme dans une espèce de logique d'une école sociologique, alors que Bourdieu lui-même, il y a des tas de passages où il dit, mais ça n'a pas de sens de dire sociologie de Bourdieu, moi je fais de la sociologie. En sciences politiques, peut-être plus qu'ailleurs, c'était évident qu'il y a plein d'auteurs qui sont, pas Bourdieu, Max Weber et d'autres, qui ont été intégrés très tôt. Alors il se trouve que le langage conceptuel de la sociologie de Bourdieu est devenu dominant, en tout cas en Sciences Po, dans une partie du champ de la science politique, ça c'est clair, mais que ce langage, il permettait absolument de réinterpréter, d'apprivoiser, d'adopter, etc., toute une série d'autres travaux sociologiques, de Schumpeter à bien d'autres. Hein. Donc je pense qu'il faudrait que les uns et les autres réfléchissent à cette expression. Il pose beaucoup de problèmes où nous donnons à nos ennemis trop de choses.
Pas la peine de me regarder comme ça. Je vais compléter. Tu parles de sociologie de Bourdieu. Il y a une autre expression qui fait fortune en ce moment, c'est sociologie critique, qui passe maintenant pour une espèce d'évidence. Et sociologie critique. Comment ?
Aux yeux des critiques eux-mêmes.
Voilà.
On n'est pas critique.
Voilà.
Sociologie.